dire, c'est que lorsqu'on parle du moi qui s'identifie, moi ici, moi je, etc., dans la tradition bouddhique, on a bien l'impression quand même que, évidemment, il y a cette notion de je.
Juste un moi-je séparé des objets de perception, moi-je séparé des autres, mais c'est un moi-je avec beaucoup de caractéristiques. Je suis ceci, cela, des traits de caractère, il y a beaucoup d'éléments, toute la richesse d'une personnalité, dans le fond. Et le moi-i ne me rendait pas compte de ceci. Le moi-iné, c'est juste cette manière de se saisir. Je vois, j'entends, juste un simple moi ou je de position, dans le fond, même s'il a l'impression qu'il est stable, qu'il est là. Mais toute la richesse de cette personnalité que nous sommes, ce à quoi le mot d'identifiant, ceci, dans le fond, n'est pas vraiment mentionné. Alors on peut bien s'identifier à une tristesse, à une colère, mais on a l'impression que, alors on s'identifie à la tristesse, on s'identifie à la colère, on s'identifie à la joie, à la tranquillité, mais tout ça ne semble pas construire un personnage. Ça semble juste, d'une certaine manière, expliquer comment on peut se perdre dans le désir, se perdre dans la colère, se perdre dans la joie. Voilà ce que ça explique. Ça illustre, mais on n'a pas l'impression que voilà, tout d'un coup je m'identifie, il y a de la joie, puis ensuite je m'identifie à la colère ou à la tristesse, mais la construction de ce personnage derrière tout ceci semble évidemment ne pas, on n'en rend pas compte. Par exemple, si voilà, je suis dans un tempérament plutôt nostalgique et j'ai tendance plus à m'identifier à la tristesse, voilà, pour une raison ou une autre, et pas tellement à la joie. Donc, voilà, je m'identifie facilement à la tristesse, un peu à la dépression, sans en faire un cas profond de psychologie. Eh bien, l'identification ici à la joie, à la tristesse, à l'inquiétude, elle ne rend pas compte de ces caractéristiques, des caractéristiques qui font que je m'identifie plus volontiers à la tristesse, à ce qui est plutôt terne, alors que d'autres personnes sont plutôt des personnes qui s'identifient plus à ce qui est joyeux, énergétique. Vous voyez, le point là qui me semble important, c'est qu'on n'a pas l'impression que s'identifier aux diverses expériences, au corps, à ma douleur, à mon émotion, à ceci et cela, crée un personnage. Il y a bien ce moi qui s'identifie toujours, qui a l'air immuable, mais nous sommes plus que ces collections d'expériences auxquelles nous identifierons. Et je pense qu'il faut quand même parler de ceci pour qu'on aborde ce problème du soi et du non-soi dans toute son envergure. Autrement, on manque quelque chose. C'est comme si on passait sous silence quelque chose qui est extrêmement important. Quelque chose qu'on vit et qu'on oublierait tout d'un coup pour s'engager dans la méditation, dans cette quête du non-soi, exploration du non-soi, en laissant de côté cette richesse, dans le fond, d'une personnalité. Dans la tradition bouddhique, quand on parle du moi imaginaire, du moi construit, le terme c'est bien imaginaire, du moi construit, en général, les sutras ont quelque chose de très précis en tête. Ils ont, pour eux, le moi imaginaire, le moi construit, c'est le moi de la tradition des Védas, c'est le moi de la tradition des Upanishads, c'est ce moi absolu, ce moi l'Atman Brahman, si vous voulez, c'est ce moi qui est immuable, totalité. C'est ceci que les textes visent comme moi construit, parce qu'on pourrait dire il est basé sur une croyance qui est donnée là par une tradition religieuse, par la croyance des brahmanes. Alors, on comprend bien, mais évidemment, je crois que dans cette exploration de ce moi imaginaire, on peut aller beaucoup plus loin. On a fait, je crois, beaucoup de découvertes en psychologie en Occident depuis un deux siècles. Donc, c'est important tout d'un coup d'amener cette richesse de ces découvertes. Dans la tradition bouddhique, on a peu de psychologie personnelle. Alors, on a des choses très précises sur la perception ou même l'enchaînement des émotions. Il y a des choses extrêmement précises, mais sur la construction d'un personnage, d'une personnalité. Alors, je ne connais pas tous les textes bouddhiques, mais là, il semble qu'on se soit beaucoup moins attaché à ceci. À tel point que, si on médite avec des maîtres orientaux, par exemple, je pense aux maîtres en Birmanie, ils sont pas concernés par ce moi historique, ce moi de narration, pour venir à essayer de décrédibiliser, démystifier ce plus le moi inné, ce moi qui serait ce moi de position, je l'appelle moi de position, en pensant que ce moi personnel caractérisé, lui, n'a pas beaucoup d'importance. Et pourtant, c'est quand même celui qui nous fait vivre, celui par lequel nous vivons. Donc ça me semble important d'essayer de rendre compte de ceci et de voir comment, en prenant ceci en considération, on peut approfondir cette notion du non-soi. Alors là, on va évidemment parler d'un personnage dans son histoire, un peu comme le fait la psychothérapie ou la psychanalyse. Mais le but ici n'est pas de structurer un moi, qui certainement peut être une chose extrêmement importante, extrêmement utile, mais le but est de se rendre compte de combien ceci est construit. Et on va une étape plus loin. On va dire que les autres étapes ne sont pas importantes, ce n'est pas du tout ce qui est dit là. Donc de trouver que ce qu'il y a de singulier dans chaque moi, ce qu'il y a d'universel dans cette confusion de moi et toi, mais il y a quelque chose de très particulier dans chaque moi, dans chaque je. Et c'est ce qu'il s'agit d'explorer. Pourquoi il y a cette personnalité? Pourquoi il y a ceci? On remarque bien, en regardant autour de soi, que chacun a son style. Il y a une manière d'être, il y a un style. Je vois des mamans qui amènent leurs enfants à l'école privée près de chez moi, c'est qu'un avec des grandes voitures luxueuses, quand elles descendent de la voiture, elles ont un habillement en général qui va avec la voiture. Quand on voit un autre style, plutôt écologique, à la bicyclette, etc., c'est une question de confort, mais n'empêche qu'il y a un autre style. Donc, les personnages, nous-mêmes, nous avons notre style. Il y a des styles particuliers, on se rend bien compte qu'il y a une sorte de cohérence dans un style. Même si des fois, on peut, évidemment, dans des circonstances particulières, emprunter un peu un style différent, mais nous avons quand même une manière d'être, un style d'être. Et pourquoi ? On peut pas dire que ce style est quelque chose de génétique. À nouveau, pour dire un bébé, voilà un bébé qui sera sportif, un bébé intellectuel, un bébé artiste. Voilà, j'espère, Dieu merci, que ce n'est pas le cas. Autrement, évidemment, c'est la projection des parents, afin qu'il va bien enfermer un peu l'enfant. Non. C'est clair qu'un enfant, il naît avec certaines capacités, c'est vrai, génétiques, même morphologiques, qu'il naît dans un milieu particulier, une situation particulière, c'est une condition qui est là. Mais néanmoins, dans cette condition donnée, eh bien quand même, va surgir un style de personnage. Je reviens à cette citation de Ortega y Gasset, qui est très intéressante parce qu'elle s'intéresse à cette notion-là. Il dit, cependant, cette vie qui nous est donnée ne nous est pas faite. Cette vie qui nous est donnée ne nous est pas faite, elle n'est pas faite. C'est justement à nous qu'il revient de la faire nôtre. La vie est à faire. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas déterminée, un peu comme, à fois comme le lapis lazuli serait bleu, voilà, il ne peut pas changer, il ne peut pas tout d'un coup devenir rouge, parce qu'il dit dans le fond, ça m'arrangerait d'être rouge. Il est déterminé, un objet est déterminé. Mais l'être humain, ça tient aussi à sa conscience, il n'est pas déterminé comme ceci, c'est ce que veut dire Ortega y Gasset, il est à faire. Il y a à faire notre vie et nous la faisons à travers un personnage. Donc à nouveau, nous ne sommes pas comme un encrier, même si on n'a plus beaucoup d'encriers, comme un encrier ou comme une chaise, complètement définie. Nous sommes libres de choisir la manière dont on veut faire notre vie, la manière dont on veut exister dans cette vie. Libres, partant du contexte dans lequel on est né, évidemment, mais tenant compte de ce contexte, nous sommes libres de nous choisir un style, une manière d'être. Et le fait que nous pouvons choisir ce style, cette manière d'être, de la vie est à faire, dit Ortega y Gasset, de faire sa vie, c'est-à-dire, ben voilà, il faut bien faire quelque chose, il faut bien exister d'une certaine manière, et d'une certaine manière, nous sommes totalement libres, pas dans le contexte de ce qu'on a vu ce matin, ici, mais dans un contexte un peu différent, nous sommes totalement libres de choisir de quelle manière on veut exister. Libre de choisir le style. Mais même dans des conditions particulières, on pourrait voir que différents enfants vont choisir des styles différents. Donc cette liberté de se choisir la manière dont on veut exister, ça se disait, nous sommes condamnés à la liberté. C'est-à-dire on ne peut jamais exister comme un encrier, comme une tasse, comme une chaise. On sera toujours à se faire exister d'instant en instant. À se choisir un style d'instant en instant. C'est condamné à cette liberté, on ne peut pas se chosifier, devenir chose. Même si on va le voir, c'est quand même quelque chose qu'on essaye. Donc cette manière de vouloir se déterminer comme ceci ou comme cela, de faire peut-être de notre style une manière solide d'être, on chosifie ceci. C'est ce que le bouddhisme appelle l'identification, s'identifier. Alors, je peux m'identifier, comme je l'ai dit avant, à une émotion, à ceci, à cela, ça change d'instant en instant. Mais il y a encore quelque chose de plus constant, c'est qu'on s'identifie à un personnage, qu'on existe tout au cours de notre vie. On existe un personnage, on se donne un style, non pas pour apparaître. On pourrait très bien imaginer, dans une situation particulière, on est un peu embarrassé, alors on se donne une contenance, manière d'être, d'apparaître. Mais c'est beaucoup plus profond. Ceci, ce n'est pas juste une manière d'apparaître, c'est une manière d'être, d'exister. Et notre vie est à faire, comme dit Ortega. Pourquoi ? Parce que, évidemment, je reviens sur Sartre, la réalité humaine, comme liberté, est tourmentée par son néant. Son manque d'être. Elle est continuellement poussée à fuir son vide afin de devenir quelque chose. Le fait de ne pas être déterminé comme les choses, ça peut être une source d'inquiétude, d'angoisse, qui fait qu'on veut choisir, on veut se faire quelque chose, on veut devenir quelque chose. On a une sorte de projet de vie. Et ce projet de vie, cette manière, ce style qu'on veut donner à notre existence pour ne pas être toujours dans l'inquiétude de cette liberté qui fait qu'on n'est jamais déterminé, cette liberté, c'est aussi l'absence d'un soi, qui serait déterminé, immuable. Il n'y a pas ce moi, ce soi déterminé, alors on a cette liberté de se faire être, de se donner ce style d'instant en instant. donne un exemple de la tradition zen, très, très court, très simple. Le gouverneur de Kyoto se rend dans l'est de la ville, donc sur les collines qui sont à l'est, donc au monastère, j'imagine, Eiji, monastère, et il va voir l'abbé du monastère. Alors à l'entrée, le portier lui demande d'écrire son nom, j'imagine avec un beau pinceau, et alors il écrit Yamamoto, gouverneur de Kyoto. Il apporte ça à ton maître, il apporte ce papier. Magnifiquement écrit gouverneur de Kyoto, Yamamoto, gouverneur de Kyoto. Et quand le maître Zen voit ceci, il dit, jette à la porte. Portier va, le gouverneur de Kyoto, jette à la porte. Enfin, il dit, voilà, le maître ne peut pas vous recevoir, etc. Et le gouverneur comprend très vite. Alors, il trace le gouverneur de Kyoto. Il dit, tiens, amène-lui le papier. L'abbé lit Yamamoto. Et dire, ah, amène ce vieil ami, Yamamoto. Donc on voit là que ça ne servait à rien pour le maître Zen de recevoir quelqu'un qui se prenait pour le gouverneur de Kyoto. Quelqu'un qui aurait été enfermé dans un rôle, dans une personnalité définie. Il est juste Yamamoto. Je ne sais pas si c'est un nom comme au Japon, mais voilà, c'est juste ce personnage-là qui n'est pas déterminé. Donc, sans cesse, nous attachons à un personnage que nous créons. À nouveau, ça ne veut pas dire que c'est superficiel. On n'est pas dans une sorte de faux self où, voilà, on sera d'une certaine manière, mais on veut apparaître d'une autre. Non, 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 c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Où on se crée ce personnage. Dans le fond, on choisit. Ça, on parle d'un projet fondamental où, finalement, face à cette existence qu'il s'agit de faire, eh bien, on va se choisir d'une certaine manière, un certain style. Lui, c'était écrivain, et finalement, voilà, tout ce qu'il va faire, ça va aller dans ce sens de consolider ce scénario, cette personne, ça, écrivain. Là, c'est un peu bien clair, écrivain, quelque chose d'assez déterminé, mais lorsqu'on prend conscience du personnage qu'on s'est choisi pour exister, à nouveau pas pour apparaître, pour exister, à ce moment-là, on se rend compte que, dans le fond, constamment, on est en train de nourrir, on s'attache à la réalité de ce personnage, et on s'est choisi un personnage, on s'est choisi un scénario pour exister, pour se déterminer, et on est attaché à ce scénario, attaché à ce personnage. Ça nous détermine. Imaginer certaines situations, dire moi je peux pas faire ça, moi je peux pas faire ça, ça n'entre pas dans mon scénario, c'est pas possible. Et puis quand on bouscule un peu la personne, finalement elle se rend compte qu'elle peut faire ça. J'imagine quoi, une situation un peu caricaturale, une personne dit moi je peux pas dormir dur, je peux pas camper, je n'entre pas dans mon style ou dans mon éducation, dans tout ce que j'ai, mais qui donne un style. Et puis voilà. Et tout d'un coup, soit par la force des choses, soit parce que cette personne est invitée gentiment, tout d'un coup elle découvre que, dans le fond, elle peut camper. Son personnage, tout d'un coup, s'est élargi un petit peu dans les possibilités. Voilà. Camper, c'est un peu trivial, mais on pourrait imaginer beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas parler en public. Non, moi, c'est pas possible, c'est pas mon truc. Ok, c'est pas mon truc, et puis peut-être que tout d'un coup, dans une situation, la personne découvre, dans le fond, cette capacité, cette possibilité, elle peut aussi l'avoir. Donc, le personnage qu'on se choisit d'être comme projet, donc c'est important, c'est pour apaiser cette inquiétude par rapport au fait d'être pure liberté, sans être déterminé. Ce personnage que nous choisissons, il nous définit, il nous limite, et nous croyons à son existence réelle. Voilà, on se raconte une histoire et on croit que cette histoire, elle est vraie. Bien sûr qu'on va ici et là, etc. Ça ne veut pas dire que ça, c'est pas vrai. Mais que ce personnage-là est un vrai personnage. On se prend à notre jeu. Bien sûr que ce personnage qu'on se crée, voilà aussi toute l'identification, enfin, toute la culture, ce qu'elle va déterminer aussi des personnages qu'on peut se créer, ceux qu'on ne peut pas se créer, eh bien, néanmoins, le fait de se construire un personnage, je pense que ça remplit une fonction bien déterminée. On ne pourrait pas faire l'économie de ceci, on ne pourrait pas faire l'éducation d'un enfant sans donner même des possibilités de modèle pour que cet enfant puisse se créer ce personnage. Je ne crois pas qu'on pourrait faire l'économie de ceci. Mais c'est important, je crois, dans le processus de maturation. En passer par là. Qui peut-être, justement, apaise l'angoisse de se vivre devant cette liberté de n'être rien de déterminé, pas comme un lapis lazuli. Ça peut-être apaise cette inquiétude et peut-être permet, dans un second temps, de questionner la réalité de ce personnage. Prends le psychiatre Leng décrit quelque chose dans son livre. Il décrit le cas d'un de ses patients qui est allé au cirque. Il dit, voilà, je me suis oublié l'autre soir au cirque. J'étais tellement absorbé par le spectacle que j'ai oublié l'heure qu'il était, l'endroit où j'étais et qui j'étais. Lorsque je me suis soudain rendu compte que je ne pensais pas à moi, j'ai éprouvé une peur affreuse et un sentiment d'irréalité. Je ne dois jamais m'oublier, fût-ce pendant une minute. On a un bon exemple d'une personne qui n'a pas une structure bien solide et tout d'un coup, elle est devant le vide de cette liberté voilà, dont elle ne sait pas quoi faire. Donc pour cette personne-là, évidemment, moi j'espère qu'elle ne viendra pas sûrement plus là, mais qu'elle ne viendra pas à un stage de méditation parce que ça ne serait pas du tout ce qu'il lui faudrait. Là, il lui faudrait un support thérapeutique, j'espère qu'elle a trouvé chez Leng, qui lui permettrait au contraire de donner une certaine stabilité à ce moi construit, à cette manière d'exister, pour que cette personne-là ne soit pas angoissée, donc voilà, simplement s'oublier au cirque parce qu'elle est dans le spectacle qui était fascinant. Donc, je crois que ce personnage qu'on se crée est important dans un processus de maturation, mais un peu comme un échafaudage, mais le problème, c'est que tout d'un coup, on est pris au jeu, on lui donne une existence réelle, et ceci nous enferme complètement, et on a remplacé l'angoisse de cette indétermination, ce vide devant la liberté, par une angoisse que ce personnage, dans le fond, ne puisse pas perdurer et que ce personnage puisse disparaître. Quelle angoisse devant la mort. La mort, c'est toujours de ce personnage-là. On a remplacé une angoisse par une autre, mais la première angoisse était devant la liberté. Celle-ci, c'est au contraire, c'est l'angoisse de perdre, illusoire, de perdre ce personnage qui a été créé. Donc, nous choisissons un personnage. Nous faisons exister. La vie est à faire. On va prendre le vocabulaire d'Orphée. Nous choisissons une certaine trajectoire de vie et puis il y a des éléments qui viennent dans la vie. Et voilà, on va les intégrer plus ou moins bien dans ce projet d'être, de personnage qu'on s'est choisi. Alors il va évaluer, il va pardon, évoluer un petit peu selon les circonstances. C'est très rare qu'on en change radicalement. On pourrait changer de lieu, même de travail et autres, mais ça ne veut pas dire qu'on changerait de personnage, même si on passait d'une profession à une autre. Donc voilà, on va conduire ce personnage à travers notre existence. On va être ce personnage à travers notre existence, ce personnage qui est une fiction. Ce qui me semble intéressant, c'est le fait de choisir, d'avoir un projet. C'est pas juste... On n'est pas un être créé par le hasard, mais on a un projet d'être. Et ça, c'est très intéressant de, le déterminer, on le verra peut-être un petit peu, si on a le temps de déterminer dans le fond, d'arriver à reconnaître quel personnage je me suis donné, à quelle image je m'attache pour exister et puis pour me présenter au monde, pour être là dans le monde, face au monde. Quel est ce personnage auquel je tiens? Tout d'un coup, d'en prendre conscience. Alors évidemment, si on peut prendre conscience que ce personnage est une création, c'est immensément libérateur. On reviendra là-dessus par la suite. Donc c'est fascinant de voir combien on peut se prendre au jeu. Et à nouveau, on a besoin de se prendre à ce jeu jusqu'à un certain point. Il y a dans la philosophie grecque un texte de Platon, le mythe d'Er, E-R, où il raconte une histoire assez surprenante qui a certainement influencé beaucoup l'Occident chrétien et musulman. Il raconte le mythe d'un guerrier qui s'appelle Er et qui est mort sur le champ de bataille. Et quand au bout de 10 jours, on est allé chercher sur le champ de bataille, on a voulu brûler son corps, et tout d'un coup, il s'est réveillé. Il raconte ce qu'il a vu pendant cette période-là, ce qui s'est passé pour lui. Donc, il est allé avec tous les autres morts, il est arrivé sur une sorte de plaine. C'est assez descriptif, c'est assez magnifique, ces mythes que raconte Platon. Il est là, et puis, parfois, les gens étaient dirigés vers un passage ou un autre. Si les gens qui s'étaient mal conduits étaient dirigés vers un passage qui allait vers les enfers, ceux qui s'étaient bien conduits étaient dirigés vers un passage qui les amenait vers le ciel. Et puis là, ils devaient passer toute une longue période à éprouver les conséquences de leur attitude, de leur action. Ceux qui étaient en enfer, évidemment, étaient tourmentés, ceux qui étaient au paradis, au contraire, eux avaient évidemment des joies immenses. Et puis après un certain temps, ils revenaient sur cette plaine. Et puis là, il n'y avait plus de différence, puisque ils avaient payé, les personnes qui étaient mal conduites avaient payé pour leurs méfaits, les autres avaient profité de leurs bienfaits. Et à ce moment-là, ils étaient là sur cette plaine, alors que... Voilà ce que nous dit le texte. Après quelques jours de voyage, les âmes se trouvent face à la déesse Anké, personnification de la nécessité du destin. Les morts, ici, se trouvent devant la personnification du destin et de la nécessité. Et chacun devra choisir son modèle de vie. Ils vont... sont tirés au sort et chacun va pouvoir passer et choisir un modèle de vie. Il y a des modèles de vie, tout un choix immense de modèles de vie, et la personne maintenant qui arrive, elle était tirée au sort, elle va choisir un diamond, une sorte de génie qui va l'accompagner, dans l'exécution de ce destin. Voilà ce que dit cette personnification de la nécessité et du destin, dit âme éphémère, voici le commencement d'un nouveau cycle qui pour une race mortelle sera porteur de mort. Ce n'est pas un diamond d'esprit qui vous tirera au sort, mais c'est vous qui choisirez un diamond, c'est vous qui allez choisir votre destin. La responsabilité appartient à celui qui choisit. Le Dieu, quant à lui, n'est pas coupable. C'est assez extraordinaire, ils ne sont pas projeté dans une autre vie par une sorte de rétribution, punition. Non, c'est les êtres-là qui vont choisir leur propre destin, c'est-à-dire le projet de vie, le personnage qu'ils veulent être. Et puis là, le texte nous dit, le premier à passer choisit immédiatement la vie d'un tyran, fort, etc. Après avoir choisi, il s'aperçoit que cette vie comprend un grand nombre de maux et maudit le hasard. Les diamonds, tous, sauf lui-même. Voilà, il a choisi, il se rend compte qu'il a cru avoir une position de privilège, et tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a beaucoup d'inconvénients à cette position de tyran, donc ce n'est pas lui le responsable, c'est les autres. Il n'assume pas son choix. Le dernier, passons au dernier, Ulysse examine précautionneusement. Il finit par découvrir ce qu'il voulait choisir depuis le début, à savoir la vie d'un homme simple, dévoué à son travail. Ulysse, lui, il en a assez de ses responsabilités et autres. Tout d'un coup, voilà, ce qui lui plaît, c'est la vie d'un homme tout simple. Donc ça sera son destin. Et ça me semble, dans le fond, être une sorte de vision du karma extrêmement, extrêmement riche, extrêmement intéressante, parce que bon, on choisit son destin. Là, c'est ce personnage qu'on se crée, vous voyez. On choisit d'être un tyran. Il y a des gens qui choisissent, malheureusement, il y a des gens qui sont violents, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui choisissent plutôt d'être quelqu'un de humble, beaucoup plus simple, parce que ça leur semble être ce personnage qui veulent incarner. Ça, on incarne un personnage, pas simplement une vie. On ne peut pas incarner une vie parce qu'elle n'est pas déterminée. On incarne un personnage.